Et à côté de moi, Anne Morelli, que vous connaissez probablement tous, elle est professeure à l'ULB,
Honoraire.
honoraire, en histoire contemporaine. Et j'ai lu qu'elle a eu récemment, ou quand même, un prix de femme de paix. Du Sénat belge comme active dans les femmes pour la paix. Et probablement, vous connaissez tous son livre sur les principes élémentaires de la propagande de guerre. Et aujourd'hui, c'est surtout avec ce livre-là qu'on va travailler en fonction de l'actualité de l'Ukraine. La première chose qui change avec la première victime de la guerre, c'est la vérité. C'est un dit-on bien connu. Et je voudrais demander à Anne comment elle voit les principes qu'elle a énumérés et qu'elle a étudiés et développés dans son livre. Quels principes sont, disons, appliqués de la manière la plus évidente dans cette guerre?
Eh bien oui, effectivement, j'ai donné pendant de nombreuses années le cours de critique historique où il y avait une partie sur la propagande de guerre et je reçois beaucoup de messages d'anciens étudiants qui me disent, Madame, vous avez vu à la télé, c'était vraiment le principe numéro 6 ou le principe numéro 4. Bon, eux, ils ont dû les étudier par cœur, donc ils s'en souviennent. Mais c'est évident que on a un décalque parfait aujourd'hui de ces principes classiques. Alors, on ne va pas tous les énumérer, mais disons que peut-être celui qui aujourd'hui me vient d'abord à l'esprit, c'est le principe numéro 3, c'est-à-dire ils ont à leur tête un monstre. Alors, toute la propagande est une propagande binaire, naturellement. Avec d'un côté nous et de l'autre côté eux. Et nous, c'est les bons, eux, c'est les mauvais. Et lorsque on cherche à appliquer ce principe, eh bien, eux, ils ont évidemment un monstre à leur tête. Alors, historiquement, on a ça pendant tout le XXe siècle et même avant, mais disons certainement à partir de la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, chez nous, par exemple, le méchant, c'est le Kaiser. Et ce Kaiser, on le présente comme étant un monstre qui a mis personnellement le feu à la bibliothèque de l'Université de Louvain ou qui a mis le feu à des cathédrales en France, etc. Mais ce monstre, ce qui est curieux, c'est que avant la guerre, il était très aimé des médias. On a des textes incroyables où on dit qu'il a les mêmes intérêts pour son peuple que nous, etc. Au moment de la guerre, ça change. Et puis, à la fin de la guerre de 14, dans le fond, qu'est-ce qu'il est devenu, ce monstre? Eh bien, ce n'est pas qu'on a été le pendre ou qu'on lui a fait un procès. Non, on lui a permis de passer la fin de ses jours dans un exil très lointain, très exotique, la Hollande. Bon. Donc, il y a des monstres que je dirais par intérim. Et on voit que dans toute l'histoire du XXe siècle, il y a des monstres par intérim. C'est par exemple Kadhafi, il est un monstre, puis il devient un très bon interlocuteur. Il arrive à Paris, paraît-il, avec des valises bien remplies. Et puis, on va le tuer comme un chien. Et puis, ce sera la même chose avec Milosevic. Il est monstrueux, il est un interlocuteur valable. Et Saddam Hussein aussi. Il est notre principale barrière contre l'intégrisme. Il est le fer de lance de la laïcité. Et puis, il devient notre ennemi. Et donc, on a ici exactement la même chose. On a exactement la même chose. Je projette volontiers une illustration de l'été 21, c'est pas il y a tellement longtemps, où on voit Madame Merkel toute rougissante qui reçoit un bouquet de fleurs de Poutine et elle en est toute émue. Bon, ça c'est en l'été 21, et puis en février 22, voilà que c'est le monstre par excellence, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui me semble très intéressant, parce qu'on persuade les gens qu'on ne fait pas la guerre contre les Russes, contre la Russie, mais on fait la guerre contre Poutine. Et alors, naturellement, personne n'ose prendre la défense de cette cause. Et on nous ajoute, oui, mais en plus, son régime est odieux, etc. Mais pourquoi est-ce qu'on ne le disait pas il y a quelques années, hein, où effectivement, je pense que ce régime n'a rien d'enviable, mais c'est vraiment le personnage contre lequel on cristallise toute la guerre. Et l'autre principe qui me semble très présent dans la propagande actuelle, c'est le principe numéro 5. Eux, ils font des atrocités, nous, tout au plus, une bavure. Ça peut arriver, hein, qu'on fasse une bavure. Mais les atrocités, c'est eux. Et en fait, on se rend compte que, et là aussi, c'est depuis la guerre de 14 au moins, on gomme toutes les atrocités de notre camp pour ne retenir que celles de l'autre camp. Alors vous allez me dire, est-ce qu'il y en a aujourd'hui dans notre camp? Ben, il faut lire ce que le rapport d'Amnesty, par exemple, qui a relevé qu'il y avait des traitements inhumains, des assassinats de prisonniers russes de la part des Ukrainiens. Mais on a peu parlé de ça parce que ça n'entre pas dans le discours qui est le discours « eux font des atrocités et nous pas ». Nous, on a des soldats qui sont des soldats humanitaires, des soldats qui sont aimés de la population. Bon, il faut voir, évidemment, chaque époque a redit ces principes-là, mais ce n'est évidemment pas le cas. Et les atrocités, moi, je crois qu'il y en a toujours des deux côés. Plus ou moins, non, il peut y avoir davantage d'un côté que de l'autre, mais même pour la Première Guerre mondiale et même pour la Seconde Guerre mondiale, le bombardement de Dresde, ce n'est pas de la rigolade, c'était de la population civile réfugiée à Dresde, venue de différentes régions. Le bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki, ce n'est pas de la rigolade. Et de même, en Yougoslavie, en Irak, dans toutes les guerres que nous avons menées, entre guillemets, il y a des atrocités, bien sûr, et pas simplement des bavures. Donc je crois que ces principes sont de parfaite actualité et méritent vraiment d'être étudiés chaque fois pour chaque cas aujourd'hui.
Ok, merci Anne pour cette...
Oui, ce sont deux principes très classiques. Le premier, c'est que l'autre camp emploie des armes illégales. Alors, pendant la Première Guerre mondiale, c'était les gaz asphyxiants, et puis c'était les sous-marins. Et on considère toujours que l'arme illégale, c'est celle que l'autre emploie et qu'on n'a peut-être pas dans son camp. Alors ici, les armes illégales, c'était, selon les moments, des armes biologiques, des armes chimiques, la centrale nucléaire, qui met le monde en danger, etc. C'est un peu la même chose que ce que Trump accusait les Chinois. Ils avaient lancé le virus, il a dit combien de fois, le virus chinois, etc. Donc, les autres, ils emploient des armes illégales, tandis que nous, on fait la guerre comme des chevaliers. Hein. On protège les femmes, les enfants. On retrouve ça chaque fois dans chaque guerre. On retrouve l'image du gentil soldat, c'est le nôtre, qui donne des tartines aux enfants, qui protège la population civile, tandis que l'autre, eh bien, il s'acharne évidemment contre les hôpitaux, contre les églises. Et c'est répétitif d'une manière vraiment ennuyeuse, je dirais, parce qu'on voit chaque fois exactement la même chose. Alors, tout va bien pour nous, tout va mal pour eux. Ça, c'est ce qu'on nous dit toujours. Je pourrais vous montrer une page du Soir de 1914. La guerre en Belgique commence le 4 août 1914 Et là, c'est 3 jours après l'invasion. Et ben, ça va mal, naturellement, pour la pauvre armée belge confrontée à l'armée allemande. Mais on voit des articles qui disent « Encore une victoire belge ». Bon, alors si vous lisez ça, vous avez l'impression que l'Allemagne est dans ses derniers retranchements et que tout va bien. Eh bien, aujourd'hui, on voit la même chose. Ça fait un an qu'on nous explique qu'on vole de victoire en victoire. Alors, depuis un an, on vole de victoire en victoire. On devrait avoir des résultats, alors. Mais ça fait partie de la propagande d'expliquer que, de l'autre côté, ils sont très démoralisés. On dit ça depuis le premier jour. Qu'ils ont plein de déserteurs. Alors, c'est curieux. Il n'y a pas de déserteurs du côté ukrainien. Or, moi, je vois un rapport de Caritas Catholica qui dit « On aide les déserteurs qui passent la nuit en Roumanie. Il y a des procès contre des objecteurs de conscience ukrainiens, etc. » Ah ben tiens, c'est bizarre. Moi, quand je tape « déserteurs ukrainiens », figurez-vous que je suis automatiquement ramené à des déserteurs russes. Alors, donc il y aurait un camp où tout le monde est enthousiaste et l'autre camp où, depuis le début, les gens n'y croient pas, ça va très mal se passer, il y a plein de prisonniers, ça aussi c'est un grand classique, nous faisons plein de prisonniers, tandis que de l'autre côté, évidemment, ils n'ont pas fait de prisonniers. Et dans les armes illégales, je mettrai aussi la question des mercenaires. Chacun accuse l'autre d'employer des mercenaires. Mais nous, on n'emploie pas des mercenaires. Nous, on a des volontaires. Hein. C'est tout à fait différent. Il y a une légion étrangère ukrainienne et cette légion étrangère, elle est formée de gens qui adhèrent tellement à nos idéaux qu'ils viennent volontairement s'engager. Tandis que de l'autre côté, c'est affreux. C'est des mercenaires, des gens qui viennent pour de l'argent. C'est tout à fait autre chose. Mais non, c'est la même chose, évidemment. Mais dans le système de la propagande binaire, on a des volontaires bienveillants de notre côté et d'horribles mercenaires de l'autre côté. Je ne pense pas que le bataillon Azov soit tellement sympathique, mais ça, je laisserai Michel raconter. Mais évidemment, comme tu viens de le dire, elle n'a aucun respect des minorités, hein, puisqu'il y a de grosses minorités à l'est de l'Ukraine qui sont russophones, mais on ne respecte pas leur langue, on ne respecte pas l'école, etc. Et puis, j'ajouterais aussi, par rapport à ce que tu as dit, qu'il y a quelques années, un rapport international considérait que l'Ukraine était parmi les pays les plus corrompus de l'Europe. Alors ça, on l'oublie aujourd'hui, évidemment. Et ce mépris, je dirais, des minorités, je pourrais le comparer pour quelque chose avec la Belgique. Il y a des régions en Ukraine où il y a 40% de russophones, comme d'ailleurs dans les pays baltes, et qu'on méprise complètement. Ça pourrait être la question de la Belgique. La Belgique, il y a en gros 60% de flamands et 40% de francophones. Eh bien, disons que c'est la même chose si demain, on disait ben, « les francophones sont une minorité, c'est interdit de parler le français, c'est interdit d'aller à l'école en français, c'est interdit d'avoir des journaux en français ». Eh bien, c'est la situation qu'il y a aujourd'hui en Ukraine, qui nous est vendue comme tellement démocratique, et on nous dit l'intégrité territoriale de l'Ukraine, c'est sacré. Alors c'est étonnant, l'intégrité territoriale de l'Ukraine, c'est sacré, mais celle de la Yougoslavie n'était pas sacrée, puisque là, on a reconnu tout de suite le Kosovo. Et puis, l'intégrité territoriale, Musk, qui n'est pas, je crois, un communiste, hein, il avait proposé des référendums locaux. Et il a été tout de suite critiqué de partout en disant « Mais comment vous pouvez imaginer de faire un référendum sous contrôle international au Donbass, etc. ?» Et donc, c'est exclu bien entendu, de faire ce type de démocratie